Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du RÉPAC 0312.
Et il est 8h31, vous écoutez CKIA FM, le 88,3, et on attend un peu plus tard ce matin que le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec dévoile des données préoccupantes sur des phénomènes qui pendent au bout du nez des locataires. D'ailleurs, on est en compagnie de quelqu'un qui connaît bien le sujet. Nicolas Villamarin Bonilla est avec nous pour nous parler. Nicolas, salut.
Salut Marjorie.
Tu fais partie du comité de logement d'aide de Québec Ouest qui a pour mission d'informer les locataires sur leurs droits, de les aider à les défendre et vous voulez aussi promouvoir le développement du logement social, ce qui constitue des solutions, en tout cas une solution contre le fait qu'on manque de logements abordables dans pas mal toutes les villes du Québec. Nicolas, de plus en plus de gens consultent les différents organismes d'aide au logement. Le droit au logement est en péril. C'est quoi les causes?
Ben, en fait, il pourrait y en avoir plusieurs causes, là. C'est sûr que, nous, de notre point de vue, le logement est un besoin fondamental. Donc, c'est un besoin qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, satisfaire. Ce qu'on constate au Québec dans les dernières années, c'est que la situation du logement est difficile. La cherté des loyers est évidente dans les dernières années. Dans les deux dernières années, avec la pandémie, on a constaté tout ça, que le logement, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est que les loyers explosent. Là. Donc, la campagne du RECLAC, c'est les loyers explosent, donc contrôle s'impose. C'est tout à fait ça. C'est qu'on voit qu'à Québec n'est pas épargné par cette cherté de loyers-là. Donc, on voit que, si on regarde statistiquement, là, dans les 20 dernières années, dans la ville de Québec, les loyers ont augmenté de presque 75%. Là,
et boboy!
Contrairement à l'indice du prix à la consommation, donc qui est à peu près 37%. Donc, le loyer augmente deux fois plus dans les 20 dernières années.
Oui, c'est fou. Parce qu'on parlait de l'augmentation des aliments il n'y a pas si longtemps là, dans les actualités. Ouais. On parlait d'une augmentation de 7% pour les familles de 4 là, environ. Puis là, tu me parles d'une augmentation de 75% sur plusieurs années, bien sûr.
Oui.
Mais quand même, c'est énorme. La part du budget que l'on réserve à notre logement, on ne gagne pas toutes 100 000 par année, là.
Non, exactement. Hein? Exactement. Si on parle de statistiques, là, dans la ville de Québec, là, on considère qu'à peu près un cinquième des ménages paye plus cher que la norme qui est de 30%. Oui. Donc, si on paye notre logement, on parle des ménages locataires, évidemment, si on paye plus de 30%, on considère qu'on paye déjà trop cher pour le logement. Puis, à Québec, c'est un cinquième des ménages locataires qui payent au-delà de 30%.
Oui, 20% des gens payent trop pour leur logement. On parle aussi de plus en plus de stratagèmes frauduleux de la part de certains propriétaires. Et là, j'insiste sur le « certains » parce que ce ne sont pas tous les propriétaires qui font ça, mais il y en a qui font ça, puis ça devrait être contré par des lois, ça ne l'est pas toujours. Ces stratagèmes-là pour hausser les loyers, quels sont-ils?
Ben en fait, c'est toute une myriade de stratagèmes. Là, le plus courant, c'est ce qu'on appelle les rénovictions, donc des propriétaires qui se rendent compte que les loyers sont très bas parce que des locataires, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont là, puis pour essayer de hausser les loyers, ils vont prétendre faire des travaux de rénovation puis pour tenter d'évincer le locataire en disant, ben écoutez, si on fait les travaux l'année prochaine, c'est sûr que vous n'allez pas être capable de payer pour ce logement-là. Donc, on vous ouvre la porte pour résilier votre bail et vous quitter. Par contre, nous, par exemple, à Sainte-Foy, ce qu'on constate depuis les deux dernières années, c'est que c'est des propriétaires qui achètent des vieux immeubles dont les logements, certes, ont besoin de certaines rénovations, mais qui arrivent puis qui rencontrent les locataires pour leur dire, ben vous quittez, c'est un nouveau propriétaire, vous quittez le logement parce que nous on va rénover tout ça, puis vous serez plus en mesure de payer ici, donc on vous chasse. Et une fois qu'ils réussissent à chasser ces locataires-là, on voit les loyers augmenter des 100, des 200 $ ou parfois plus.
Ouais.
Des fois, c'est une question de simplement transformer la charge du chauffage, par exemple. Si on installe des thermopompes, puis après ça, les nouveaux propriétaires, ce qu'ils essayent, c'est de dire, ben ça va coûter 100, 150 $ de plus de votre loyer. Donc, évidemment, les locataires
sont comme obligés de partir parce qu'ils peuvent pas soutenir
ben
ça.
C'est bien souvent, ils sont un peu, intimidés par ce type de situation-là parce que les propriétaires arrivent avec un arsenal de discours, tu sais, qui soi-disant basé sur les droits, mais ultimement, tu sais, les locataires qui maîtrisent mal leurs droits, ben, ils vont penser que, ben, il faut que je signe, donc je vais signer, mais bien souvent, ils se rendent pas compte qu'ils ont quand même le droit de rester là,
oui,
de refuser ce type de modification-là.
Oui, donc, tout à fait. On peut aussi faire des plaintes à la régie du logement. On sait que c'est interminable, là. Souvent, le traitement des plaintes, c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'on peut refuser. Puis, on s'imagine aussi des gens. C'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, justement. Tu disais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances et qui savent, justement, qui sont bien outillés pour s'armer contre des propriétaires qui utilisent un peu ça, hein?
Oh non, tout à fait. Les rapports de pouvoir sont assez déséquilibrés au profit des propriétaires, bien évidemment. Et puis c'est ça, c'est le discours que les propriétaires amènent qui est intimidant auprès des locataires. Donc, tu sais, ils arrivent avec des documents. Parfois, c'est parler de c'est l'huissier qui rentre. Donc, quand un locataire est pris au dépourvu comme ça, bien souvent, ben, il se résigne, puis il signe, puis ben, il arrive que des locataires nous contactent parce qu'ils ont signé quelque chose déjà. Donc, plus difficile de contester ce type de choses-là, mais c'est pas impossible, mais c'est plus difficile, c'est plus risqué.
Quel service, justement, vous offrez aux locataires qui ont besoin d'informations ou de protection, entre guillemets, là?
Ben, en gros, on peut parler d'un service de première ligne. Donc, les locataires nous contactent, puis on les informe en matière de droit du logement. Donc, on n'est pas des avocats, on peut pas fournir des conseils, des avis juridiques. Donc, c'est vraiment de l'information sur leurs droits de manière générale. On peut pas les conseiller directement en tenant compte de votre situation. Vous devriez faire ci, faire ça. Non, c'est plutôt qu'est-ce qu'il en est là en matière du code civil, en matière du logement. Donc, on les informe par rapport à ça. Puis, leur recours, bien souvent aussi, il y a des recours possibles au niveau du tribunal administratif du logement. On les accompagne dans la rédaction de mise en demeure. Donc, on peut fournir des modèles de mise en demeure, puis comment ça fonctionne tout ça.
C'est pas évident, hein, parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui, tu sais, des fois, j'ai une grande gueule, là, je suis à la radio quand même, mais dans ma vie privée, j'aime pas la chicane. J'aime pas ça, moi, me m'osticailler. Puis des fois, je pile sur mes propres droits ou sur mes propres principes pour éviter, justement, d'être en conflit avec les gens autour de moi, ça implique pas mal tout le monde, mais notamment les gens qui sont en poste de pouvoir, je pense que c'est encore pire. Il y a une certaine forme d'intimidation déjà, pas d'intimidation, mais tu sais, question de pouvoir, justement. C'est pas évident, ça, de prendre nos principes et de dire, moi, je vais aller me battre. Puis c'est pas tout le monde qui a la force non plus de le faire, les moyens de le faire. Des fois, ça prend de l'argent. Des fois, ça prend un certain niveau d'éducation. Des fois, ça prend de l'accompagnement. Ça prend de l'énergie. Faut être en forme psychologiquement, physiquement. Je pense aux personnes âgées, notamment, là, c'est pas facile pour eux, là.
Non, c'est certainement pas. Puis d'ailleurs, ça, c'est un des problèmes qu'on voit à Sainte-Foy, où il y a une société immobilière qui a acheté un lot de 4 blocs appartements des personnes qui ont fait de leur vie là,
ouais,
qui sont rendues
à 80
ans.
Qui connaissent probablement, puis qui s'aident, ou en tout cas, tu sais, c'est des milieux de vie aussi.
Oui, exactement. Puis tu parles des chicanes, puis t'es pas la seule, là. T'sais, nombre de locataires qui nous contactent, c'est des gens qui veulent pas se rendre là, parce qu'évidemment, ça mine un peu leur relation avec le propriétaire, mais bien souvent, c'est le dernier recours, en fait, là. T'sais, une mise en demeure, ça a l'air très formel, c'est vu comme une menace et tout ça, mais c'est le dernier recours, là. C'est parce que tous les autres moyens ont été épuisés, puis qu'on est rendu là. Donc oui, on comprend cette partie-là. Mais c'est d'ailleurs pour ça aussi que oui, on fait une aide individuelle, là, au niveau d'information juridique, mais on évite bien souvent à la défense collective de droits. Donc là, c'est une certaine façon de montrer que c'est pas juste un problème particulier, c'est un problème social en matière du logement, en matière du droit du logement, et qu'il faut se mobiliser collectivement pour justement réclamer des ajustements de la part du gouvernement, que l'État s'invite dans le marché privé du logement parce que la situation est complètement intenable.
C'est ce qu'on va entendre donc ce matin là, avec les nouvelles données en matière de logement. Le secteur communautaire, Nicolas, et public là, est aussi problématique en matière de logement. Là, on parle de secteur privé, mais le secteur communautaire, public. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de logis public ou communautaire? On parle de coop?
Ben, en fait, le logement public, c'est tout simplement c'est les habitations à loyer modique ou c'est les programmes qui viennent directement de l'État, qui sont gérés par l'État. le plus souvent, le plus populaire, c'est bien les HLM.
Ouais.
Qui sont des programmes qui visent à réduire le fardeau financier des personnes pour payer le logement. Donc, le loyer est fixé à 25 % des revenus bruts des ménages.
En fonction du revenu, donc on fixe un loyer, ça fait, on est moins soumis aux aléas du marché, donc.
Ben c'est exactement, c'est du type de logement qui est sorti du marché pour répondre à un besoin. Donc c'est pas une occasion de faire de faire du profit comme dans le marché privé, mais dans le marché, c'est pas du marché public, mais dans le logement public, là on sort du marché pour justement répondre à un besoin fondamental qui est de se loger. Et bien souvent, ben un des principaux problèmes des ménages locataires dans le privé, c'est qu'ils ont pas les sous pour payer le loyer qui augmente sans cesse. Donc, l'État fixe à 25% la part raisonnable du loyer. Et c'est ça que normalement les locataires en HLM payent.
C'est déjà plus que le 20%?
C'est 30% la norme. Donc, la 30% de la norme, c'est 30%. Hey. Mais là, en HLM, on paye normalement 25% de nos revenus bruts.
OK.
Ouais. Puis si on parle de logements communautaires, par contre, là, on tombe dans les coopératives d'habitation, dans les organismes sans but lucratif en habitation, donc qui sont beaucoup plus, qui ciblent un peu plus la population, tu sais, qui soit à faible revenu ou qui ont des problèmes sociaux de toute forme, en toxicomanie, en santé mentale.
Mais ces formules-là sont aussi problématiques parce qu'on n'en a pas assez.
Ben ça c'est avec notre autre regroupement qui est le Frappru là qui on milite, ça fait des décennies, pour une augmentation significative du financement des logements publics et communautaires parce que c'est il y en a un manque. Tout simplement, le dernier HLM a été construit dans les années 90 parce que le fédéral s'est retiré en 94, puis n'ayant plus de sous du fédéral, ben Québec a stagné. Donc il y a pas de nouvelles HLM qui apparaissent dans le décor au Québec. Et on sait que les besoins sont criants, notamment en matière financière des ménages locataires, comme je le disais depuis le début. Il y a encore énormément de ménages qui sont mal logés, soit parce qu'ils payent trop cher, soit parce que leur logement est en décrépitude, soit parce qu'ils sont trop nombreux dans le logement.
C'est un autre problème, ça, l'insalubrité des logements, effectivement.
Exactement. Ouais. Donc oui, puis les coopératives d'habitation, les organismes sans but lucratif aussi, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas de neuf à Québec. Et quand il y en a des neuf, c'est vraiment à l'extrême banlieue. Donc, ça répond pas nécessairement aux besoins qu'il y a. Puis là, très récemment, on a le ministre des Finances, Éric Girard, qui a prononcé sa mise à jour économique et financière.
Puis là, il a changé des affaires. Puis on va en reparler aussi avec la porte-parole du Frappru, Véronique, cette semaine. Mais un mot là-dessus, il a utilisé le terme « logement abordable » qui viendrait remplacer le programme Accès Logis.
Ben c'est ce que les comités logement ou les organismes qui travaillent la question du logement on comprend, c'est que l'accès logis est menacé carrément. Puis là on remplace le logement social par du logement abordable dans la mesure où on finance un futur programme de construction de logements abordables qui ont défini abordable en fonction du loyer médian du secteur.
Oh là
donc
là,
si on prend un exemple à Sainte-Foy, un appartement, deux chambres à coucher, c'est 900 $ le loyer médian. Donc on viendrait fixer plus ou moins à ce montant-là un logement, deux chambres à coucher à Sainte-Foy.
Ouais.
Pour dire qu'il est abordable.
Mais là, c'est un peu, comment dire, j'ai de la misère à comprendre la façon de fonctionner dans le sens où abordable veut dire que si le marché enfle, s'il y a de la spéculation, le prix du logement abordable va nécessairement monter aussi parce que ça sera pas plus accessible là, au bout du compte.
Non, c'est ça qu'on critique beaucoup dans les comités logement, c'est que là, on est en train de changer le discours, puis on parle de moins en moins de logement social, puis on parle de plus en plus de logement abordable.
Et les mots, hein?
Parce que le logement social, ça indique qu'on sort des logements du marché privé, que c'est une responsabilité collective de l'État ou de la communauté, puis on passe à un logement abordable, un discours qui est beaucoup plus centré sur le marché privé. Donc, on va subventionner des promoteurs, de constructeurs de logements dans le secteur privé pour que, justement, finalement, c'est des subventions qu'on donne carrément, des fonds publics qu'on dilapide comme ça pour des promoteurs immobiliers qui n'ont pas de scrupules pour chasser des locataires ultimement, puis de hausser. Puis que, tu sais, dans l'actualité des dernières semaines, des derniers mois, on a vu là que dans ces programmes de construction de logements abordables, finalement, les promoteurs, ils s'en foutent de pas rendre ça au bout du compte abordable, puis de se contenter de payer
une amende. Oui, oui, c'est ça, on l'a vu, là, c'est ça, à Montréal, il y a des cas d'espèces
donc,
qui
donc, c'est ça, le logement abordable ne protège pas suffisamment le droit.
Nicolas, en terminant, j'aime faire l'avocate du diable. Je déteste faire ça, mais je sais que pour l'exercice, c'est bien de faire ça pour aider à comprendre la situation dans son ensemble, mais si je suis une propriétaire de logement, on a vu des cas d'ailleurs sortir dans les médias dernièrement, moi je veux faire de l'argent, j'achète des blocs pour faire de l'argent, il est où le problème?
Ben le problème c'est que le logement c'est pas une marchandise, c'est ça notre discours, le logement c'est pas un bien de consommation comme un autre qu'on achète et qu'on vend comme on achète ou on vend une voiture, tu sais, c'est un chez-soi, on construit un chez-soi, puis en ce sens-là, l'État québécois s'est doté des normes de base minimale pour protéger ce bien de consommation-là, c'est un bien de consommation, ça satisfait un besoin qui est fondamental, et donc, quand on dit que on achète un logement ou un bloc appartement pour faire du profit, ben c'est de jouer avec la vie des gens. C'est jouer avec la vie des gens, puis les abus sont réels, sont palpables. On le voit, les abus qu'il existe. Oui, il y a des bons propriétaires, mais il y a aussi des mauvais propriétaires qui minent toute cette crédibilité-là à ce propos-là. Donc, la question fondamentale de notre point de vue, c'est est-ce que on considère le logement comme quelque chose qui est fondamental, donc qui devrait sortir justement de cette calcul du profit que certaines personnes ont, parce que la voracité des capitalistes, elle est là, elle est bien réelle.
On voit l'impact avec justement les nombreux appels que vous recevez, les demandes d'aide. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Nicolas Villamarin Bonilla. Merci beaucoup.
Ben, merci Marjorie.
Bonne journée. Bye bye.
Café, radio et éducation populaire, une chronique pour mieux connaître les organismes citoyens des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, une présentation du REPAC 0312.